D'où l'intérêt, effectivement, d'organiser une expertise indépendante et qui permette de savoir quels sont les réels niveaux d'exposition des gens, puisqu'il y a un organisme qui s'appelle l'Agence Nationale des Fréquences qui a mis en place un protocole. Ce protocole ne prend en compte qu'une partie des rayonnements. Il ne prend en compte que les rayonnements qui vont de l'antenne relais vers le téléphone portable et ne prennent pas les rayonnements qui vont des téléphones portables vers l'antenne relais. Donc, de toute façon, les mesures qui sont faites officiellement ne le sont faites que sur une partie du champ auquel est exposé le public.
Donc, de toute façon, il faut les multiplier par deux ?
Il faut prendre l'ensemble, ce qu'on appelle les voies balises et les voies trafic, pour rendre compte réellement de l'exposition du public.
À quoi il faut ajouter qu'une norme, c'est toujours une moyenne, et qu'en effet, il y a des heures creuses et des heures de dépassement.
Absolument. Suivant le moment, les antennes relais fonctionnent à mesure qu'elles sont sollicitées. Et par exemple, vers midi ou vers à partir de 18h jusqu'à 20h, c'est les moments où il y a le plus d'exposition. Très souvent, il y a des mesures qui sont faites à 8h du matin. Alors, on a soi-disant une courbe de trafic et un coefficient par lequel on multiplie ces mesures. Et on s'est rendu compte, lors des nombreuses réunions que nous avons eues, qui étaient assez houleuses avec les gens d'en face, que leur coefficient à eux, il est particulièrement raplapla. Ils ont vraiment pris la partie basse du coefficient. Mmh. Alors que pour nous, ce qui compte, et c'est dans la réglementation, c'est l'exposition maximale du public, puisque les gens le prennent de toute façon.
Corinne Lepage.
Oui, je crois que ce que vient de dire Étienne Sandrier est très important, c'est-à-dire la réalité des mesures. Mais je voudrais revenir un peu sur son premier propos, qui est celui de la connaissance, et votre question sur « mais faites-vous le poids ?». Tout ce débat est extrêmement important parce qu'en fait il nous renvoie à un sujet majeur qui est celui de la responsabilité. Vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, il n'y a plus de réassurance. Ce qui veut dire que si on se trouve en face de risques sanitaires, logiquement c'est la responsabilité des opérateurs qui devraient être engagés. Je dis logiquement parce que ce n'est pas certain. Pourquoi n'est-ce pas certain ? Parce qu'il existe dans notre réglementation, qui est communautaire, quelque chose qui s'appelle le risque de développement. Qu'est-ce que c'est que le risque de développement ? Le risque de développement, c'est le risque qui est couru lorsque, compte tenu de l'état des connaissances, on ignorait qu'il existât un risque. Ce qui veut dire que la bagarre pour faire les études est une bagarre extrêmement importante, d'abord pour notre santé à tous, mais aussi pour la question de la responsabilité, parce que si on ne fait pas les études, on ne sait pas. Si on ne sait pas, l'état des connaissances ne permet pas de savoir. Si l'état des connaissances ne permet pas de savoir, risque de développement. Si risque de développement, pas de responsabilité des opérateurs. Alors, pas de responsabilité des opérateurs, responsabilité de qui ? Responsabilité de personne, donc de tout le monde. C'est-à-dire, vous l'État, vous avez donné les autorisations, c'est donc vous qui êtes responsable, pas monsieur ou madame Y qui a signé, bien entendu, mais l'État, c'est-à-dire le contribuable. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un système de ce qu'on appelle socialisation du risque, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui assume un risque financier que les assureurs n'assument pas et que les opérateurs peuvent ne pas assumer si on est dans le cadre du risque de développement. Donc, vous voyez là où je dirais sur le plan de la globalité du système, le système pêche, c'est que normalement c'est celui qui paye qui choisit, qui doit choisir en fonction de ses critères, que ses critères, ça doit être celle de la réduction du risque, donc de l'application du principe de précaution. Or, on est dans un système dans lequel nous n'appliquons pas, même si on l'a mis dans notre constitution, le principe de précaution, mais où nous, en réalité, assumons le risque financier lié à sa non-application. Donc vous voyez, je crois que c'est peut-être un peu compliqué ce que je suis en train de dire,
non.
Mais il faut que les auditeurs comprennent bien l'enjeu économique et financier qu'il y a derrière tout cela.
Auquel j'ajouterais, Michel Rivasi, peut-être un enjeu d'information. Ce que vous avez très clairement mis en lumière, c'est la nécessité de se renseigner et de savoir le plus vite possible pour asseoir ensuite justement tous les développements et toutes les responsabilités qui en découlent. Or, Michel Rivasi, cette question de l'information, elle est également au centre des préoccupations du CRIREM.
Tout à fait. Et là, par rapport à ce sujet sur la responsabilité, moi je voudrais m'adresser aux élus. Parce que là se pose un problème, c'est que d'un côté, ils se disent il faut absolument que tous mes concitoyens, que ce soit dans ma circonscription, dans mon canton, puisqu'on voit que les conseillers généraux sont très impliqués, ainsi que les régions, puissent avoir accès au mobile, il faut mettre en place, par exemple, des stations relais. Sauf que on s'aperçoit, et moi je fais de très nombreuses réunions publiques partout en France à l'heure actuelle, qu'il y a des collectifs de riverains qui, du jour au lendemain, s'aperçoivent qu'en face de leur immeuble, en face de leur maison, etc., il y a tout d'un coup une station relais qui pointe son nez, sans information au préalable. Donc ça, il y a une carence énorme au niveau de l'information. Or, en 99, il y a eu un code de bonne conduite qui demandait à ce que les opérateurs fassent des réunions publiques avant toute installation d'antenne relais. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, une fois que vous comprenez l'antenne relais, avec la bénédiction de la collectivité, on va la mettre. Après, c'est beaucoup plus difficile à la faire déplacer. Donc, ce qu'on demande aux maires, c'est qu'il faut absolument qu'ils signent une charte tripartite, c'est-à-dire où il y ait les opérateurs, le maire en question et les associations. Parce qu'il faut qu'il y ait une discussion sur le lieu d'implantation des antennes. Il ne s'agit pas d'empêcher l'implantation des antennes, il s'agit de les mettre à des endroits où il y a le moins de risques possible. La deuxième chose, on parlait des mesures. Vous avez vu l'ambiguïté des mesures entre les mesures où il n'y a que les bureaux de contrôle qui trouvent des chiffres très bas et où lorsqu'il y a le CRIREM et les bureaux de contrôle, curieusement, les chiffres sont plus élevés. Donc là, il faut absolument que les maires se dotent de moyens de mesure indépendants. Alors souvent, ils me disent, mais c'est pollueur-payeur, comme c'est les opérateurs qui polluent, c'est à eux à payer. Oui, mais si c'est eux qui payent exclusivement, eh bien, on n'a pas de garantie que les mesures soient faites en toute transparence. Bon. Et la troisième chose, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait, alors ça ennuie assez les opérateurs, mais je trouve que c'est très important, c'est ce qu'on appelle des mouchards. Nous, le CRIREM, on est en train de développer ça, c'est-à-dire que on est face maintenant à une pollution électromagnétique. Qu'elles viennent des antennes relais, qu'elles viennent du Wi-Fi, qu'elles viennent du WiMAX, qu'elles viennent maintenant de l'UMTS, le 3G, etc. Il faut qu'on ait des moyens de mesure de cette pollution électromagnétique qui semble occasionner des troubles justement sur la santé des gens. Et ça pourrait être justement les collectivités territoriales qui sont de façon complètement indépendante des opérateurs et qui suivent ça en continu. Et puis la dernière chose qu'on demande, c'est que ça soit à 0,6 volts. Ça se fait ailleurs, je vois pas pourquoi ça se ferait pas en France. Et au niveau des parents, moi j'ai quelque chose à leur dire. Les enfants à l'heure actuelle, ils sont vraiment sur les nouvelles technologies. Et vous avez des parents, pour faire plaisir à leurs enfants, leur achètent des mobiles. À des enfants, on voit des enfants de 8 ans, des enfants de 10 ans, on en voit énormément dans les collèges, alors les lycées n'en parlons pas. Lorsqu'on commence à le dire, attention, il peut y avoir un risque. Surtout, justement, quand il y a une utilisation forcenée, si vous voulez, des mobiles. Où ils font pas attention, c'est toujours à proximité de leur oreille, et puis ils parlent sur des choses, je veux dire, on n'a pas besoin de parler 37 ans sur un sujet donné. Eh bien là, il faut pas qu'ils achètent des portables à leurs enfants jusqu'à 14 ans. C'est un minimum. Et puis il faut indiquer à des enfants comment on utilise son portable.
Pourquoi est-ce que vous mettez cette barre à 14 ans?
Parce que les études, elles sont assez, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure par rapport à l'étude de Gandhi, c'est ces rayonnements passent de... Plus on est jeune, plus ça réellement passe et plus il peut y avoir des effets biologiques. Et je pense qu'il y a une crainte même chez les opérateurs. Vous voyez, pour que le responsable de Bouygues dise, moi je ne conseille pas jusqu'à 14 ans, et notamment il y a des études européennes qui doivent sortir dans Interphone, etc. En fait, on a peur qu'au bout d'un certain temps, ça occasionne, si vous voulez, des troubles au niveau du cerveau avec des maladies qui vont se développer. Tout à l'heure, on parlait des risques de développement. Bien, là, maintenant, on commence à savoir. J'ai l'impression que les opérateurs, ils veulent pas payer les risques liés aux gens. Donc, il faut être très prudent vis-à-vis de la téléphonie mobile. Donc, c'est pas de l'interdire, mais c'est de l'utiliser de façon limité, c'est de savoir qu'il y a des risques, c'est pas un objet anodin, et c'est pas parce que les enfants le demandent, et ils sont toujours soumis à une espèce de plaisir lié à la technologie, qu'on doit aller dans ce cadre-là.
Étienne Sommerier, le mot de la fin?
Voilà, je voulais juste dire que à l'heure actuelle, on est en train de déployer la troisième génération, ça s'appelle 3G sur les pubs, ou encore UMTS, que pour n'importe quel médicament, on fait une étude d'impact sanitaire avant de le lancer sur le marché. Là, en l'occurrence, on est en train de le balancer alors qu'il n'y a aucune étude d'impact sanitaire qui a été faite, à l'exception d'une, on en parlait tout à l'heure, hollandaise, qui montre qu'après trois quarts d'heure d'exposition à des niveaux très faibles sur les antennes relais, de l'UMTS ou 3G, on a des troubles cognitifs, des problèmes de vertige et de nausée. Pour l'instant, ça ne correspond pas à une réalité économique. Il n'y a pas de marché. On va devoir déployer environ 3 fois plus d'antennes relais. Et j'appelle les élus, j'appelle les citoyens aussi à se rendre compte qu'on n'a pas besoin de cette technologie. Le GSM suffit très bien. Elle peut marcher en appliquant le seuil de 0,6. Il faut réclamer un moratoire sur cette troisième technologie qui ne correspond à rien et qui prend la population en cobaye.
C'est donc une nouvelle technologie qui ne représenterait pas une amélioration par rapport...
Avoir Internet, la télé, regarder un match de foot ou un match de ping-pong ou de golf sur un écran de 2 cm de côté, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va faire progresser la société.
La fin de ma phrase, c'était par rapport aux éventuels dégâts sanitaires des deux premières technologies.
Et ben, il faut l'évaluer avant de le lancer. C'est très bien d'avoir un progrès technologique. Il faut l'évaluer, voir quels sont...
Pour le chimique, il faut d'abord faire une évaluation sanitaire environnementale avant de lancer le produit. On fait l'inverse.
Enfin, vous dites comme pour le chimique, on n'en est pas encore là, Michel Rivasi, puisqu'on attend toujours la réglementation REACH et qu'elle est déjà assez...
Mais écoutez, quand même, il y a eu une bagarre.
C'est amaigri par rapport...
Oui, mais enfin, c'est encore pas mal. Hein. Si elle sort comme elle est là, je crois que
si
le monde de la consommation
aura marqué... C'est une mobilisation citoyenne européenne importante, justement, pour qu'il y ait au moins une évaluation de 30 000 molécules. Avant, il n'y en avait que même pas 5 000. Donc, on progresse. Et moi, je dis que sur cette façon de penser, faisons d'abord des études sanitaires environnementales et après, on mettra le produit sur le marché. Alors que là, si on fait l'inverse, les dégâts seront irréversibles.
Mais on joue sur le fait accompli. C'est le Far West. Une fois qu'on y est, vous ne pouvez plus nous enquiquiner. Grosso modo, c'est ça. Hein.
Et vous plaidez les uns et les autres pour davantage de connaissances.